10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, le week-end sur Beurre FM, on fait travailler les enfants, hein. C'est l'islam au présent.
Ça s'appelle l'exploitation.
Non, je commence à le former, tu vois. Vous voyez, Imam Abdelali. Qui voilà, il faut former la relève. Donc, c'était Issir qui a fait le top horaire. Moi, je trouve que tu t'en es super bien sorti. Comment ça va, Imam Abdelali?
Salam alaykoum, wa barakatuh. Alhamdulillah. Et toi, j'espère que tu vas bien, Philippe?
Écoutez, ça va bien, Imam Abdelali. Je vous cherchais dans les couloirs. Vous êtes débordé ce matin.
Oui, on est en pleine discussion sur, bon, comment discussion. Traiter cette question de l'organisation de la structure de l'imamah en France.
C'est vrai que les jalons ont été posés la semaine dernière.
Tout à fait.
Le week-end
puis,
dernier.
Les discussions reprennent et le travail de construction de ce Conseil national des imams continue à s'élaborer. Ce qui est sorti de l'œuf n'est pas quelque chose de parachevé. Il est très imparfait. Et notre rôle maintenant, c'est de faire en sorte qu'ils grandissent et mûrissent, s'émancipent, deviennent véritablement compétents et puissent remplir ces fonctions correctement. Et donc, là, j'étais en discussion pour en parler avec des responsables.
Bien. Dès 10h le samedi matin.
C'est tous les jours que j'en ai sur cette question-là.
Alors, l'imam Abdelali Mamoun est avec nous tous les samedis en direct sur Beurre FM. C'est-à-dire que vous pouvez lui poser des questions. Si vous en avez des questions concernant l'islam au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000, vous avez décidé de parler d'un sujet ce matin, la maladie en islam, imam Abdelali. La maladie qui fait souffrir beaucoup de gens et cause même leur mort. Mais est-ce qu'on peut dire que la maladie a des avantages? Est-ce qu'on peut poser la question comme ça?
D'abord, il faut savoir qu'il y a une fatalité. Il est vrai que, comme il y a la vie et la mort, il y a entre cette vie et la mort des états dans lesquels le croyant ou l'être humain est affaibli par des choses dans son environnement et qui provoquent parfois des états de faiblesse qu'on appelle la maladie.
Mais cette maladie, bien que les personnes qui sont foudroyées ou frappées par la maladie peuvent trouver ça terriblement injuste, en fait.
Tout à fait. Et nous, ce que nous leur disons, c'est cette sunna, c'est-à-dire cette tradition divine qui dit Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bish-sharri wal khayri fitna. Chaque âme goûtera à la mort et nous vous éprouverons par des épreuves de bien et de mal. Et c'est vers nous que vous retournerez pour rendre compte de ces épreuves. Est-ce que vous les avez réussies ou vous les avez au contraire ratées? Donc la maladie, comme des fois parfois la bonne santé, est aussi tout autant une épreuve. Parce que quand on est en bonne santé, on a souvent tendance à oublier de continuer à implorer Dieu et d'en s'en remettre à Dieu.
On ne le sait pas qu'on est en bonne santé d'ailleurs, parce que comme c'est normal,
voilà,
on ne se rend pas
normal.
Compte.
Voilà,
ouais.
Exactement, on ne se pose même pas la question.
Ouais,
alors que c'est seulement quand on est malade qu'on, à ce moment-là, on comprend la valeur de la santé.
Mais vous savez, Imam Abdelali, que pour ceux qui tombent malades et qui sont des, bon, je vais mettre entre des guillemets, hein, qui sont des bons croyants, des pratiquants, il y a ce sentiment d'injustice et se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour mériter ça, alors que j'ai tout bien fait comme Dieu me le demandait?
Non. Il ne faut pas penser qu'un bon croyant puisse penser de cette manière-là. Ça s'appelle el jaza, c'est-à-dire le fait de se rebeller contre la volonté de Dieu. On ne pense pas comme ça. Quand on est malade, on accepte la volonté, le destin. C'est un maktoub, c'est un destin. Hada qadar. Et le croyant a le devoir de croire en ce sixième pilier de la foi, qui est an tu'mina bil qadari khayrihi wa sharri. Tu croiras au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Y compris s'il est mauvais, bien entendu. C'est pas que
de croire
que tout
voilà,
est bien.
Voilà.
Donc quand ça va mal aussi, il faut aussi accepter d'affronter la maladie et de s'en remettre à Dieu et de dire Alhamdulillah ala kulli hal. Voilà ce que doit dire le croyant quand il lui arrive un malheur. Cette phrase-là, louange à Dieu, quel que soit l'état dans lequel je suis. Alhamdulillah ala kulli hal. Voilà ce que doit dire. Les croyants qui rencontrent un malade ou qui sont informés qu'une personne,
est malade,
lui va lui faire des invocations en l'espérant qu'il guérisse rapidement et qu'il retrouve un prompt rétablissement par cette invocation. Allahumma rabban nas adhib al ba's ishfi anta ash-shafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Oh mon Dieu, rétablis la personne qui est malade et pour qui je fais des invocations, etc. Bon, on va pas trop rentrer dans les détails, traduction détaillée et minutieuse de cette invocation, mais c'est ce que le prophète nous a recommandé de dire, et nous a recommandé aussi une autre formule, c'est de dire tahour. C'est facile à dire, tahour. Et puis le mot la ba's. Là, c'est en arabe, on dit la baisse.
Quand on dit comment ça va, la hausse ou la baisse?
On dit la baisse. Mais en vrai, la baisse, ça veut dire pas de mal. Parce que le mot baisse en arabe, ça veut dire mal. Le fait de subir un mal, on dit baisse. Et là, tu dis, la bas, inshallah, mekoun bas, mekoun bas. Inshallah, que ça soit pas quelque chose de mal qui t'arrive. Que ce soit pas grave, si tu veux.
D'accord, donc la baisse, ça veut dire?
Pas mal, pas grave.
Pas grave.
Pas grave, inshallah, pas grave. La baisse,
comment
pas grave.
Ça va là-bas? La baisse, pas grave.
Ouais, ça veut dire pas grave. La baisse, ça veut dire pas grave. Voilà, exactement. Le mot là, ça veut dire non. C'est la négation. Et baisse, ça veut dire mal. Pas de mal.
Pas de mal.
Pas de mal. C'est ça ce que ça veut dire étymologiquement, ou mot à mot, cette formule. Donc le prophète disait, nous rappelait de dire la baisse tahour. Ça veut dire pas de mal, inshallah. Il fait un dua. C'est comme ça, une sorte d'invocation où tu dis qu'inshallah, c'est pas grave. Et que ça soit une source de purification pour ton âme. Alors pourquoi? Parce que tu m'as posé la question. Est-ce qu'il y a quelque chose de bien?
Est-ce qu'il y a un avantage?
Un avantage.
Est-ce qu'il y a un avantage à tomber malade ou à la maladie?
Alors le prophète dit dans un hadith. Non, d'abord il y a un verset du Coran qui dit: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Et tout mal qui peut vous arriver vient de vous-même, de vos mains, et il pardonne pour beaucoup. Il pardonne pour et montre sa grâce pour beaucoup. Et le prophète alayhi salatu wasalam disait dans un hadith authentique: ma yusibul mu'minu min wasabin wala nasabin. Il n'y a pas de croyant qui subit une maladie, un mal-être, ne serait-ce même un moment d'angoisse, wala saqamin wala huznin, de tristesse, hatta al-hammu yahummuhu. Il y a même un moment de souci dans lequel il va se sentir soucieux, qui le met dans un état mal à l'être. Il kaffara bihi, kuffira bihi min sayyi'ati. Sans que cela soit une source de purification de ses péchés. Allah Azza wa Jalla nettoie les péchés de celui qui l'éprouve par la maladie ou par le mal-être, par le sentiment de ne pas avoir ce bien-être. Et le prophète dit dans un hadith, là, qui est encore plus explicite: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله ما عليه خطيئة. Le croyant ne cesse de subir, et la croyante ne cesse de subir des malheurs sur sa personne, sur ses enfants ou sur son argent, jusqu'à qu'il rejoigne son Seigneur et il est totalement allégé et soulagé de tous ses péchés. Et là, وما عليه يلقى الله وما عليه من خطيئة. Donc, mashallah. Donc c'est, quand on est malade, il faut y voir le côté positif. C'est que je souffre, certes, mais en même temps, Rabbil Alamin, chaque coup de souffrance que je ressens, chaque instant de souffrance que je ressens, même il dit dans un hadith, une aiguille qui va te piquer le doigt. Voilà, show katulati touchakura. Jusqu'à même l'aiguille qui va te piquer le doigt, Allah Azza wa Jal, il t'efface et il enlève de ta balance des péchés, eh bien, il dira, voilà, je t'ai châtié sur terre. Hein, je t'ai puni sur terre, eh bien c'est pour éviter de te châtier le jour du jugement dernier. Donc c'est une source de miséricorde. Donc arrêtons de penser que la maladie est forcément quelque chose qui est considéré comme une punition. Dieu a décidé de s'en prendre qu'à moi. Bah écoute, le prophète dit quoi? Idha ahabba Allah umran ibtalah. Si Dieu il aime quelqu'un, il l'éprouve. Il l'éprouve par la maladie, par la misère, par des problèmes, par des choses qui lui arrivent dans la vie. Et il dit dans un hadith, et que ceux qui sont les plus éprouvés, ce sont les prophètes. وَأَشَدُّهُمْ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءَ ثُمَّ الْأَدْنَى فَالْأَدْنَى. Et ainsi de suite, vers des degrés moindres. Et ceux qui finalement sont les moins éprouvés, finalement, comme le dit le prophète, ce sont ceux qui sont les moins élevés auprès de Dieu, qui ont une place les moins bonnes auprès de Dieu. Donc sachez que ceux qui sont éprouvés, et que finalement, Rabbel Alamin, eh bien, il est en train de les éprouver à la hauteur du degré qu'il a à ses yeux, qu'ils ont aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on y viendra, cher. Je sais que Philippe, tu grimaces et tu dis, ouais, mais bon, non, mais attends, c'est pas normal.
D'abord,
etc.
Non, on y
viendra.
Parce que je connais, il y a des gens qui doivent se dire, Dieu m'aime beaucoup, hein, parce qu'il y a beaucoup d'épreuves. Il y a quand même beaucoup d'épreuves sur terre.
Mais attention, à condition de surmonter l'épreuve par la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de changement et de force que si ce n'est pas par Dieu. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Et Dieu est meilleur mandaté pour régler mon problème. Et je demande à Dieu que je m'en remets à Dieu, tawakkaltu ala Allah, le fait de s'en remettre à Dieu, là effectivement cette personne aura réussi cette épreuve. Mais si il dit ya waïla, il m'arrive que du mal, des malheurs, et toujours en train de se lamenter, ça veut dire qu'il n'a pas réussi, il n'a pas accepté la volonté divine, il n'a pas accepté le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc et ça changera rien. Donc à quoi bon se lamenter, chouiner et on va dire comme ça, alors que ta situation ne changera pas avec tes chouinages ou tes lamentations. Donc il faut accepter, dire la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de changement et de force si ce n'est celui qui vient de Dieu. C'est ce que le prophète nous a dit quand il dit: il y a un trésor, hein, dans mes invocations. Celui qui les prononce, eh bien, elles lui seront très utiles le jour de la résurrection. C'est l'expression « La hawla wa la quwwata illa billah ». Et c'est aussi la manière de manifester la piété. Dieu, dans le Coran, il dit « Wa man yattaqi Allah yaj'al lahu makhraja ». Celui qui craint Dieu, eh bien, il lui trouvera des issues à ses problèmes. « Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib ». S'il est pauvre, Allah subhanahu wa ta'ala le nourrira d'une manière qu'il ne soupçonne même pas. Voilà ce que dit Dieu. Alors, un compagnon... du moins une femme qui avait perdu son fils, etc., qui avait eu des problèmes, a dit au prophète, voilà ce qui m'arrive, que des problèmes. Le prophète lui a dit, la hawla wa la quwwata illa billah. Multiplie-le toi et ton mari et tes enfants à la maison. Inch'Allah, tu verras que tes problèmes vont se résoudre. Et effectivement, Rabbel Alamin va libérer les liens de cet homme qui avait été fait prisonnier par une tribu adverse, etc. Et il va revenir avec un tribut de guerre. Donc, non seulement Dieu va leur rendre leur enfant qui avait été fait prisonnier par leurs ennemis, mais en plus, il va revenir avec un immense troupeau d'animaux comme tribu de bataille. Ils vont finalement devenir très riches. Tout ça parce que leurs parents avaient répété « La hawla wa la quwwata illa billah ». Donc, parmi les avantages de la maladie, ouais. Déjà, c'est qu'Allah Azza wa Jalla est proche du malade. Hein. Le prophète dit, avec des mots de Dieu, ce qu'on appelle le hadith Qudsi, le fameux hadith saint, le fameux hadith sanctifié, où c'est Dieu qui parle, il dit « Ô mon serviteur, je suis tombé malade et tu n'es pas venu me rendre visite ». Et là, le serviteur dira, « Oh mon Dieu, comment toi, tu es le Seigneur des mondes et tu tombes malade ?» Il dira, « Rabbel Alamin, ton ami, ton compagnon et ton frère est tombé malade et tu n'es pas venu lui rendre visite. Car si tu étais venu lui rendre visite, tu m'aurais trouvé auprès de lui. » Donc, le prophète recommande par ce hadith-là le fait de rendre visite aux malades. Bien sûr, avec modération. « Zorriban tazdad hubban » dira le prophète, hein, fait avec modération, ne pas s'étaler, rester des heures assis à côté du malade, il a besoin de repos, mais venir lui faire quelques invocations, le soulager, l'encourager dans sa souffrance et lui dire « on est avec toi, t'inquiète pas, t'es pas tout seul », etc. Eh bien, c'est extraordinaire que de faire ça. Mais de squatter le lit, la chambre de l'hôpital ou je ne sais quoi, ou chez lui s'il est on va dire à domicile, eh bien, ce n'est pas une bonne chose que de rester trop longtemps chez les malades, mais bien sûr, ce qui est bien, c'est de lui rendre visite. Et parmi tout simplement la maladie, elle sert Philippe à comme tu l'as dit tout à l'heure, à comprendre la valeur de la santé. Parce que si on tombe jamais malade, comment tu veux qu'on sache la valeur de la santé si on la perd pas? Il faut qu'on perde à un moment donné dans notre vie la santé pour comprendre la valeur qu'elle a, cette santé. Oui. Donc, à un moment donné, chaque croyant doit être éprouvé par la maladie pour ressentir combien les bienfaits de Dieu sont immenses quand il t'accorde la santé. Que tu as un corps qui est très compliqué. Tu as énormément d'organes qui fonctionnent en même temps. Et tout ça, c'est une véritable usine à gaz. Et pourtant, là, tu es là en train d'avancer. Tu profites de tous ces avantages que ton corps t'accorde alors que tu n'y es pour rien. Tu n'as rien fait pour que tout cela t'arrive, c'est-à-dire de bien. Eh bien, des fois, ce système se détracte. Il y a des dysfonctionnements et tu tombes malade. Et à ce moment-là, on prend les précautions, on prend les soins qu'il faut. Hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, moi je suis malade, je veux m'en remettre à Dieu et il va me guérir. » Non, non, le prophète dit « Aqila wa tawakkal ». Mets des causes et remets-toi. Et ensuite, tu t'en remets à Dieu. C'est pas, tu dis simplement « Je m'en remets à Dieu » et puis tu fais aucun effort pour aujourd'hui. Il y a un médicament et un remède à chaque maladie. Les kulli da'in dawa, dit le prophète. Pour chaque mal, il y a un médicament. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Que vous le connaissiez ou que vous l'ignoriez, il y a un remède. Toutes les maladies ont un remède. C'est à nous de faire rechercher pour trouver le remède. Pour ça qu'il est, c'est considéré comme une sadaqa jariya, ilmun yuntafa'u bihi, que de financer les organisations de recherche médicale ou autre. Tout cela, quand vous faites une aumône, et vous le donnez à une organisation, je ne sais pas moi, l'ARC par exemple, l'organisation qui lutte contre le cancer, si bien entendu on est sûr que cet argent-là est utilisé à bon escient. J'ai donné cet exemple-là.
Oui, je sais.
Ne me dis pas, oui, ceci, cela, j'en sais rien. J'ai donné un exemple, qu'il y a des chercheurs qui ont besoin d'être financés, d'être entretenus pour qu'ils puissent avoir le temps complet, leur temps à temps plein dans la recherche contre des maladies aujourd'hui orphelines comme
il y a beaucoup de maladies orphelines, des maladies génétiques,
voilà, c'est ça, exact, les fameuses maladies orphelines, etc. Il y en a beaucoup, et donc ça, parfois il y a aussi chez nous les musulmans, des gens qui peuvent atteindre. Et c'est à ce moment-là qu'on y pense. Ah ouais, mais pourquoi nous les musulmans on fait pas? Ah ouais, c'est seulement quand ça t'arrive que tu penses à cela. Il faut être solidaire avec l'ensemble des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dire ah non non non, moi je vais aider que mes frères musulmans. Si je meurs, mes organes, il faut que ça soit dans un corps de... sinon je veux pas qu'on donne mon organe. Ou dira non non non, pas question, touche pas mon corps, touche pas mes organes. Par contre toi, si tu tombes malade et que tu as besoin d'un organe, tu vas même pas te poser la question. Tu vas même pas appeler l'imam pour lui demander yachir, est-ce que le don d'organes c'est halal ou c'est pas halal. Donc arrêtons l'hypocrisie, hein, bien entendu que tous ces moyens qui permettent de redonner la vie à une personne très malade qui est sur le chemin de la mort et que vous lui redonnez la vie, Dieu dans le Coran le dit, wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nas jami'a. Sadaqallahu al-'azim.
On parle de la maladie en islam, hein. Ce matin, si vous avez des questions à poser à l'imam Abdelali Mamoun, il vous suffit simplement de composer le 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. C'est l'islam au présent jusqu'à 11h, ce Beurre FM.
L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
En présent et en direct jusqu'à 11h, vous pouvez poser vos questions en direct à l'imam Abdelali Mamoun au 01 53 48 3000. On parle de l'islam et de la maladie ce matin. Alors, imam Abdelali, est-ce qu'il faut souhaiter tomber malade pour obtenir la récompense de Dieu?
Non, il faut surtout pas souhaiter de tomber malade. Le prophète, au contraire, faisait des invocations pour être préservé, être épargné de la maladie. Il disait dans ses invocations, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiya. Oh mon Dieu, accorde-moi ta grâce et épargne-moi de tout mal. Fi dini wa dunyaya, dans ma religion et dans ma vie. Wa ahli wa mali, dans ma famille et mon argent. Allahumma astur 'awrati. Oh mon Dieu, protège mon intimité. Wa amin rawati, et apaise ma peur ou mes peurs. Wa ahfazni min bayni yadayya wa min khalfi, protège-moi devant moi ainsi que derrière moi et sur ma droite et sur ma gauche. Wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi, et au-dessus de moi. Allahumma inni a'udhu bi 'azamatika an ughtala min tahti. Oh mon Dieu, je te demande je demande par ta puissance d'être épargné, d'être trahi par le bas, d'être attaqué par le bas. Rawahu Abu Daoud, rapporté par Abu Daoud.
Ça veut dire quoi, attaqué par le bas?
C'est-à-dire un urtal, d'être, va dire que quelqu'un puisse m'attaquer dans un endroit fragile qui est sous moi, c'est-à-dire par le dessous de moi. Parce qu'il a parlé de tous les l'environnement de la personne, donc d'être finalement d'être dans une bulle de protection divine. Il disait aussi dans un dua, Allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal junun. Oh mon Dieu, préserve-moi de la lèpre et de la folie. Non, le baras c'est pas la lèpre, c'est tu sais, quand on a des taches blanches là, al-baras, eczéma ou un truc comme ça. Bref, des maladies de la peau, ou al-junun, la folie, ou al-judam, là c'est la lèpre et ou le choléra, ou sayyi al-asqam, et les pires maladies. Hein, rapporté par Tirmidhi. Il disait aussi, Allahumma inni a'udhu bika min munkarat al-akhlaq. Oh mon Dieu, préserve-moi des pires mauvais comportements. Wal a'mal, et des actes. Wal ahwa, et des passions. Wal adwa, ainsi que les maladies. L'amrad, rawahu al-hakim. Rapporté par al-hakim. Et le prophète disait aussi, salallah al-yaqin wal afiya. Demandez à Dieu la certitude et d'être épargné du mal. Fama uti ahadun shay'an ba'd al-yaqin. Il n'y a rien que de mieux que peut obtenir chacun d'entre vous après la certitude et la foi, que d'être épargné du mal. Fasaluhuma Allah. Donc demandez-les à Allah. Selon Omar Khattab, le prophète a dit, ma min rajulin ra'a mubtala, il n'y a pas un croyant qui voit quelqu'un éprouvé par maladie sans qu'il dise, en regardant le malade, mais sans le faire écouter ce qu'il dit, alhamdulillah alladhi afani mimma btalaka bihi. Oh mon Dieu, louange à Dieu qui m'a épargné de ce que Dieu t'a fait subir. وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا, et m'a préféré parmi beaucoup de ces créatures de la meilleure des façons. إلا لم يصيبه ذلك البلاء كائنا ما كان, sans que il ne lui arrive pas ce mal qui a subi la personne devant qui il a prononcé ces paroles. Donc le croyant doit dire alhamdulillah alladhi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Quand tu vois quelqu'un handicapé sur une chaise roulante, quand tu vois quelqu'un dans un hôpital en train d'agoniser, etc., tu es invité à prononcer cette invocation, alhamdulillah alladhi afani mimma btalahu bihi kathiran mimman khalaq wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Voilà ce que le prophète nous recommandait de dire, pour nous dire tout simplement qu'il ne faut pas souhaiter tomber malade. Mais simplement parce que Dieu a le souci de consoler ceux qui sont éprouvés, il leur explique que si malgré tout vous tombez malade, voilà la récompense que vous allez obtenir. Mais dire que non, puisque tomber malade, il y a autant de récompenses, eh bien, oh mon Dieu, fais en sorte que je tombe malade. Non, on ne peut pas dire ça. Par contre, il dit dans un hadith que le jour de la résurrection, quand il verra quand certains d'entre nous verront la récompense que Dieu a accordée à ceux qui étaient malades et qui est tombé très malade, à ce moment-là, ils souhaiteront, oh mon Dieu, ya Rabbi, j'aurais bien voulu tomber malade comme lui, il est tombé malade. Ça, c'est le jour du jugement dernier. Mais pas maintenant, on dit pas maintenant, mon Dieu, fais-moi tomber malade et souhaiter le mal, parce que être malade, c'est aussi être un boulet dépendant des autres, c'est rien apporter à la société, alors qu'être en bonne santé, c'est mettre au service ses compétences, son apport, sa force, sa puissance, sa bonne santé, son bien-être pour les autres, ceux qui en ont besoin. Alors que si tout le monde, chacun dit, on va tous tomber malade, on va tous avoir besoin, et qui sait, alors après, qui va nous consoler et qui sait qui va nous prendre en charge. Donc il faut éviter, au contraire, de tomber malade et de faire tout ce qu'il faut pour ne pas tomber malade.
Quel est le personnage qui symbolise la patience et la résistance face à la maladie, Imam Abdel Ali?
Eh bien, c'est évident, hein, tout le monde sait, connaît l'histoire de Sayyidina Ayyub Sabir, le fameux grand prophète qu'on appelait le patient par excellence, qui était Ayyub Job, le prophète Job. Le prophète nous raconte, et le Coran nous raconte comment il a été éprouvé, comment lui il a résisté, et comment il a montré, parce que là on a un exemple de comportement face aux épreuves de la maladie et même de d'autres malheurs que subit cet homme a subi dans sa vie, et comment Rabbel Alamin l'a récompensé parce qu'il a fait preuve de patience. Le verset la sourate les prophètes, versets 83 et 84, Dieu dit: et Ayyub, quand il implora son Seigneur, le mal m'a touché, massani ad-durru wa anta arhamur rahimin, mais toi tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Nous l'exaucâmes et enlevâmes le mal qu'il avait, lui rendîmes les siens, et autant qu'avec eux, par miséricorde de notre part et en tant que rappel aux adorateurs. Donc là, ça résume un petit peu l'histoire, c'est que cet homme-là est tombé très très malade, à tel point que tout son corps était complètement affecté par la maladie qu'il avait subie, à part sa raison et sa langue, parce qu'il avait demandé que sa raison et sa langue soient épargnées pour qu'il puisse continuer à implorer Dieu. Donc Sayyidina Ayyub alayhi salam a été épargné, je suis en train de petit à petit.
Est-ce que vous voulez, Imam Abdel Ali, qu'on aille vous chercher quelque chose à boire pour évacuer ce tigre?
Non, je vais y arriver. Je vais y arriver jusqu'à la pause, hein, après à la pause, Inch'Allah.
Si je peux faire ça pour vous, Imam Abdel Ali.
Tout à l'heure.
J'y vais.
Mais allez, je termine cette histoire. Et donc, Dieu, dans le Coran, dit qu'il l'a éprouvé dans sa famille, toute sa famille est morte, Philippe. Il n'y avait que sa femme qui reste vivante. Tous, il avait, je crois, une dizaine d'enfants. Ils sont tous morts. Sa maison a brûlé. Tout ce qu'il avait, les biens, la richesse, il est devenu extrêmement pauvre, extrêmement malade, et il avait
tout perdu, finalement.
Tout perdu, à part sa femme, il n'y avait que sa femme. Et à un moment donné, Rabbel Alamin lui dit, écoute, tape le rocher, et nous allons faire jaillir une eau qui te guérira. Et c'est de cette eau, cette source que Dieu a fait jaillir de la terre, que Sayyidina Ayyub alayhi salam a permis de boire, et tout de suite, dans les instants qui ont suivi, de manière miraculeuse, il a retrouvé la santé, et Rabbel Alamin a fait en sorte que sa femme, ou même peut-être d'autres, je ne sais pas, on n'a pas les détails de comment il a réussi à avoir le double d'enfants qu'il avait perdu, et la richesse d'avoir le double de la richesse qu'il avait perdu.
Donc, avec la même femme.
Alors, je dis bien, comment il les a eu, ses enfants? Peut-être qu'il s'est marié, peut-être qu'il a eu d'autres épouses, j'en sais rien, mais en tout cas, il est dit que dans l'histoire, que cet homme-là avait récupéré le double de ce qu'il avait perdu, quelle que soit sa santé est devenue encore plus fort qu'avant, son argent encore plus riche qu'avant, et ses enfants encore plus qu'il en avait avant. Voilà ce que dit ce fait historique coranique, hein, je parle bien d'un récit qui est dans le Coran, l'histoire de Sayyidina Ayyub, qu'Allah le couvre de sa grâce et de sa paix, alayhi salatu wassalam. Donc, on a tout intérêt à suivre cet exemple. Si Dieu nous raconte cette histoire, c'est pas juste pour nous raconter des légendes et des contes de fées. Il s'agit véritablement de faits historiques, hein, de ce qu'a vécu Sayyidina Ayyub alayhi salam, Ayyub Sabir, et combien le croyant doit prendre exemple sur ces choses qui peuvent arriver à l'un d'entre nous. Nous sommes aujourd'hui face à une cinquième vague de Covid, Philippe, et on sait qu'autour de nous, certains vont être malheureusement éprouvés par la maladie. Et là, nous sommes en amont pour rappeler à chacun d'entre nous d'accepter la volonté de Dieu, mais de faire tout en sorte d'éviter d'attraper la maladie. On ne doit pas se dire, ah ben non, bah puisqu'il y a autant de récompenses, bah je vais pas porter de masque, je ne vais pas respecter les gestes barrières, je vais rien faire. Si je tombe malade, tant pis. Non, non, c'est pas ce qu'on lui dit. On lui dit au contraire, demande à Dieu d'être préservé du mal et d'être épargné de la maladie. Et donc, fais tout en sorte pour épargner. Donc, respectons les gestes barrières de surcroît, surtout en cette période-là. Où en plus, on nous parle d'encore un super vilain qui s'appelle Imocron, c'est ça, Philippe, Imocron, d'un variant encore plus virulent.
C'est pas Macron, là, ça.
Non, j'ai dit Imocron.
Parce que si vous dites comme ça,
Amicron, c'est ça?
Ou, je sais pas, il vient d'Afrique du Sud.
Omicron, c'est ça. Omicron. Bah, en tout cas, tous ces mâles qui peuvent nous arriver ne sont pas des punitions divines, mais des épreuves. À nous de les surmonter. Inch'Allah, que ça se passe de la meilleure des façons et que tous ceux et toutes celles qui nous écoutent ce matin, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, ils soient épargnés. Inch'Allah, ya Rab.
Bien, dans un instant, Imam Abdelali Mamoun, vous répondrez aux questions des auditeurs au 01 53 48 3000. Je rappelle également Imam Abdelali. Alors, la Umrah s'est maintenue ou pas avec les...
Non, c'est malheureusement suspendu. Je ne peux pas aujourd'hui me garantir que...
Ah oui, parce que c'est pour ça que je pose la question.
Il y a
parce
aucun
que...
versement de la part des fidèles. Ouais. Qui ont décidé de partir avec moi. Je sais que beaucoup d'auditeurs nous attendent par rapport à cette question. Vu la situation telle qu'elle
c'est
est aujourd'hui,
compliqué de se projeter.
On ne peut pas s'engager. Donc ce que je dis, attendons de voir comment la situation va évoluer au mois de décembre. Et si Inch'Allah la vague n'est pas aussi, on va dire, grave que ce qu'on a pu le croire et que véritablement il y a ce bouclier de vaccination qui a joué de son efficacité et a évité l'excès de personnes contaminées et voilà une situation grave, que l'État français ne décide pas la fermeture des frontières et que l'Arabie Saoudite elle aussi ne décide pas de fermer ses frontières à la France, eh bien à ce moment-là, Inch'Allah, on pourra partir comme est déjà. Il y a beaucoup de pèlerins français qui sont là-bas, Philippe. On a des agences qui ont déjà envoyé des pèlerins au mois d'octobre, au mois de novembre. Mais nous, mon programme, c'est le mois de décembre. Donc, on a vraiment une incertitude.
Oui, à 3 ou 4 semaines, il n'y a pas de visibilité, en fait.
On n'a pas de visibilité. Au contraire, le brouillard est de plus en plus intense et la situation est de plus en plus inquiétante et préoccupante. Donc, soyons patients, faisons des invocations. Qu'Allah nous épargne de cette vague et de toutes ces conséquences dramatiques, que ce soit des conséquences pour la santé et la vie des gens, mais aussi pour l'économie de notre pays, auquel j'implore Allah subhanahu wa ta'ala qu'il la protège et qu'il la couvre de sa bénédiction. Je parlais bien sûr de la France. Et j'ai pas de problème à prier pour la France. Il faut qu'on change de discours et arrêter de penser que la France est l'ennemi des musulmans. La France est notre pays. Nous l'aimons. Nous sommes loyaux envers ce pays. Et j'invite tous les musulmans à se réconcilier avec cette idée. Voilà.
Bien, allez, on prendra les appels dans un instant. Imam Abdelali au 01 53 48 3000. L'islam au présent jusqu'à 11h sur Beurre FM.
L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
Voilà, Imam Abdelali, nous parlons de l'islam et de la maladie. Et les auditeurs de Beurre FM vous attendent au standard au 01 53 48 3000, direction Toulouse. Et c'est Mohamed qu'on accueille. Bienvenue, Mohamed.
Bonjour, monsieur.
Bonjour, monsieur.
Salam alaikum wa rahmatullah.
Salam alaikum à tous, à Cheikh Abdel Ali, à tous les éditeurs de Beurre FM.
Marhaba avec Akhoya.
Alhamdulillah. Merci, Cheikh. Cheikh, je travaille dans une société avec les Français et on s'en chambre entre nous. Mais comme moi, j'ai la difficulté avec la langue, ils me posent tout le temps, ils me posent la question. Et comme j'ai la difficulté avec la langue, ils me demandent toujours pourquoi vous, les musulmans, vous ne mangez pas le halouf. Et c'est quoi la preuve pourquoi vous ne mangez pas la viande halal? C'est quoi la viande halal déjà?
Non. Alors avant de, on va d'abord répondre à cette question. Oui. Allô?
Oui.
Non. Alors, pour répondre à leur question, tu leur dis qu'est-ce qui est plus sale, le cochon ou le chien? Ils vont te dire, le cochon est plus sale que le chien. Je dis, alors expliquez-moi, pourquoi vous ne mangez pas de chien? Si vous répondez à ma question, pourquoi vous ne mangez pas de chien? Moi, à ce moment-là, je répondrai, pourquoi je ne mange pas de cochon? Je ne vois pas pourquoi je mangerai d'un animal plus sale qu'un autre, alors que je vais me priver de l'un qui est moins sale, et je vais m'autoriser l'autre qui est plus sale. Donc vous, vous n'êtes pas cohérent avec vous-même. En Chine, ils mangent du chien, c'est haram. Les musulmans là-bas ont des problèmes avec les Chinois parce qu'ils refusent de manger du chien ou du serpent ou d'autres animaux carnivores. Mais pour répondre de manière succincte, c'est-à-dire khulasa, yani bihtisar, al jawab ala su'alak, pour répondre à ta question, c'est an Allah azza wa jalla harrama kulli dinabin wa mikhlab. C'est-à-dire Dieu a proscrit, interdit tous les animaux qui sont des animaux carnivores, c'est-à-dire dont la chair est nourrie par la chair. En islam, on est autorisé de manger que les animaux herbivores, c'est-à-dire les hayawanat allati ta'kul al-hashish. Est-ce que ça répond à ta question? C'est-à-dire que Hanaï, on considère qu'une chair est saine quand elle est nourrie de végétaux, comme les grains, le foin, l'herbe de la prairie, etc. Hada halal. Un animal qui est nourri avec de la chair, c'est-à-dire comme les chiens ils mangent de la viande, le lion, le tigre, l'ours, le renard, le halouf aussi est un omnivore, c'est-à-dire qu'il mange à la fois les végétaux et la viande. Donc à partir du moment où la chair est nourrie aussi de viande, eh bien Rabbel Alamin a dit non, vous mangez pas cette viande. Hein, aux croyants, mangez ce qui est bon pour vous de ce que nous avons mis à votre disposition. Donc le croyant mange de chair, de la chair, c'est-à-dire l'ham, lihwa mrabbi bin nabatat, par des végétaux. D'accord. Est-ce que tu as compris? El-halouf, il mange tout. Il mange à la fois les végétaux et les déchets et la viande et tout. C'est un omnivore, comme nous.
Même les cadavres,
cher. Oui, Hadakul, de toute façon, ceux qui mangent des cadavres, qui mangent de la viande morte ou vivante, c'est haram. Par exemple, manger de la viande de guépard ou de léopard ou de loup ou de chien, kulchi haram. Kulchi adna haram. Est-ce que ça répond à ta question?
Bien sûr. Moi, en arabe, je peux, mais en français, je peux pas.
Eh ben, tu parles pas avec eux. Tu leur dis, écoutez, moi, je suis pas un imam. Allez poser la question à l'imam. Arrêtez de me saouler avec ça. Il dit, moi, je suis là pour travailler, pas pour polémiquer sur ma religion. Okay, donc, laissez-moi tranquille.
Je
suis pas compétent. Je suis là pour travailler, pas pour parler de religion. Ma religion, elle est beaucoup trop sacrée pour qu'on lui donne aussi peu d'importance et qu'on en parle dans les coulisses, dans les couloirs de l'usine ou de l'atelier. Non. Les coulisses, les maqam, les maqal. Adalis a maqam ou le kalam an l'islam. Voilà, Khoya, je te laisse parce qu'on a beaucoup d'auditeurs.
Alors, Mohamed était à Toulouse. Maintenant, nous avons Mehdi avec nous. Mehdi, bienvenue.
Oui, bonjour à tous. Salam alaikum, l'imam.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba.
Je voulais juste poser une question concernant la maladie. Et bon, je vous donne un exemple. Ma grand-mère, elle a 95 ans. Vous en doutez bien, elle est malade, elle est fatiguée. Et justement, je ne sais pas si. L'acharnement médical ou thérapeutique, en islam, il est recommandé, conseillé ou voilà. Parce que souvent, on a tendance à dire, on verra le Moktoub, de toute façon, c'est Dieu qui va décider si elle doit partir ou pas. Et en fait, je ne sais pas trop quoi faire parce que je sens, elle souffre, elle est fatiguée, elle a énormément mal et voilà.
Si les médecins sont unanimes, je dis bien unanimes, il n'y a aucune ambiguïté, aucun doute sur le fait que ta grand-mère ne pourra jamais guérir de ce qui lui est arrivé. Et qu'aujourd'hui, elle est sous assistance respiratoire. Tu comprends ça? Et que, par exemple, elle est aujourd'hui en état comateux et mort cérébrale. Et qu'aujourd'hui, c'est simplement son cœur que l'on fait battre grâce à un appareil. C'est-à-dire la pompe voilà. À ce moment-là, l'euthanasie passive est autorisée. Ça veut dire que débrancher la personne et la laisser mourir par elle-même, c'est autorisé. Par contre, accélérer sa mort en injectant des poisons ou des produits qui vont la tuer, ça c'est totalement interdit. Ça s'appelle un meurtre.
D'accord.
L'euthanasie active est interdite. Mais l'euthanasie passive avec ordre et autorisation des médecins, bien sûr, et de ce qui est on va dire, légalement autorisé, eh bien oui, il n'y a pas de problème. Par contre, si même la loi vous autorise à faire l'euthanasie active, c'est-à-dire d'injecter un produit pour que la personne elle meure, eh bien là, l'islam le dit non, on n'a pas le droit de faire ça. On ne peut pas tuer là, parce que là, c'est ton produit qui va tuer la personne. Le débrancher pour qu'il meure tout seul, khalihimut. Voilà. Là où celui-là, on a le droit, l'autre, on n'a pas le droit. Est-ce que je suis clair?
Ouais, très clair.
Voilà, Khoya. Vite, parce qu'il y a encore d'autres auditeurs qui voudraient.
C'est très bien. Merci beaucoup, Léon.
Je t'en prie, Khoya. Merci. Au plaisir à toi.
Merci Mehdi. Alors on accueille Rachid Imam Abdelali. Regardez-moi là.
Je regarde les noms.
Ne soyez pas dissipés. Je vous donne les noms. Rachid, bienvenue. Ouais.
Je suis avec toi, Philippe.
Ah voilà, ça me rassure quand vous êtes là, parce que sinon je vous cherche. Rachid, bienvenue.
Wa alaykoum salam. Marhaban akhi, tfaddal soualak. Vite fait.
Je voudrais vous poser la question en français parce que l'arabe, je connais pas.
Mais on veut pas que tu la poses en arabe, on veut que tu la poses en français justement.
D'accord. Alors, moi, j'ai vécu avec une femme pendant 32 ans, mais elle est décédée, mais je l'ai juré, avant qu'il décide, bon, on a vécu, on a discuté, je l'ai juré quand il sera mort, il m'a fait jurer que je l'incinère, je l'enterre pas, et je l'ai incinéré. Est-ce que je risque quelque chose ou pas?
Tu ne dois pas l'incinérer. C'est interdit d'incinérer le corps d'un être humain. Le prophète dit dans un hadith, « La yahriqu bin nar illa rabbun nar ». Ne brûle avec le feu.
Mais si c'est déjà fait.
Ah, si c'est déjà fait, il a commis une erreur et astaghfirullah, il demande pardon à Dieu. On n'a pas le droit d'incinérer un corps humain.
Je l'ai juré, elle est
chrétienne. Mais même si elle jure, tu jures, on s'en fout. Tu peux pas obéir à un péché. C'est comme si elle avait dit, jure-moi que tu vas aller boire de l'alcool ou jure-moi que tu vas aller, fréquenter des prostituées ou toi, par exemple. On ne peut pas obéir à un serment qui constitue à commettre un péché. Tu comprends?
D'accord.
La yajouz ta'at al makhlouq fi ma'siyat al khaliq.
Alors si c'est déjà fait, qu'est-ce qu'il doit faire?
Istighfar, il demande pardon, c'est une erreur qu'il a fait, Allah ghalib. Mais on doit pas brûler le corps humain, on doit pas le brûler. La yahriqu bin nar illa rabbun nar. Ne brûle par le feu que le Seigneur du feu, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le corps, on doit le mettre dans une tombe, dans une sépulture normale et on l'enterre. Même si elle nous a dit fais ci ou ça, ahna la man harqouch. Al harq fi l'islam haram. C'est pas toi qui décides, ce corps-là ne t'appartient pas, il appartient à Dieu. Et Dieu a dit non, on brûle pas mon corps que j'ai créé.
Voilà Rachid, merci. On accueille Nordine, on retourne à Toulouse. Bienvenue Nordine.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Marhaban akhi.
Moi je me permets de vous appeler en premier temps pour vous remercier infiniment à Philippe et Abdel Mamoun de tout ce que vous faites. Allahumma barik, c'est vraiment magnifique. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent à vous remercier.
C'est gentil.
Ça fait plaisir.
Ça fait plaisir, c'est réconfortant.
Franchement, vous répondez à toutes les questions. Allahumma barik, Allah vous préserve. Allah vous
donne
tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez de bien.
Amin. Jamais.
Et en deuxième temps, j'aimerais rappeler, si possible, le prophète Ali salatu wassalam nous a dit l'huile de Nigel, la graine de Nigel, soigne de tout sauf de la mort. Donc faites les causes et remettez-vous à Allah Azza wa Jal. Et Wallahi, tout marche. Je vous parle par expérience parce que j'ai une maladie qui s'appelle le vitiligo.
C'est une maladie de la peau, non?
Ouais, c'est ça, c'est dépigmentation, mais moi j'ai c'est le femelle, ouais. J'ai pas le mâle.
Donc, c'est ce dont on parlait tout à l'heure.
Ouais, la peau blanche.
C'est une dépigmentation, c'est ça?
C'est ça. Ni il s'arrête, ni il se soigne.
Ouais, mais est-ce que vous avez des douleurs? Vous ressentez des...
Ah oui, ça me brûle au soleil, au froid, ça me brûle, j'ai des brûlures en fait. Donc la peau devient rose.
Fragile.
Voilà, donc par rapport à la douche, il faut faire attention. En été, je dois m'habiller vraiment avec des habits longs.
Comment t'as dit que ça s'appelait la maladie? Ça s'appelle
Vitiligo.
Vitiligo.
Voilà, c'est femelle que j'ai. Parce qu'il y a le mâle qui s'arrête, on peut l'arrêter. On peut arrêter la progression. Et la femelle, on ne peut pas l'arrêter.
Eh ben, il y a donc carrément du genre dans l'affaire.
Mais, alhamdoulilah, pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal m'a permis d'avoir une pudeur encore plus grande. De ne pas aller à la plage, de ne pas me... Voilà, alhamdoulilah, c'est mal pour un bien.
Ouais,
donc c'est... voilà. Et franchement, je tenais à vous remercier, mais vraiment du fond du cœur. Et qu'Allah il vous ouvre toutes les portes que vous
voulez,
tout ce que vous voulez. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire.
Merci beaucoup pour votre intervention.
Merci.
Alors Abdelkader est à Dreux, on a 3 minutes avec Abdelkader. Imam Abdelali, je vous demande d'être rigoureux. Abdelkader, bienvenue.
Oui, allô, salam alaikum.
Wa alaikum salam.
Bonjour pour Monsieur Philippe,
à tout le monde.
Juste remercier Cheikh Abdel Mamoun.
Là,
on est en train d'écouter avec moi et on apprend beaucoup de choses avec vous. On apprend à chaque fois.
T'as une petite question quand même à poser, mon frère Abdelkader? Ah, c'est vraiment gentil. Ça me fait... En tout cas, c'est très réconfortant, Philippe, de recevoir des messages comme ça. Ça montre qu'effectivement, on a le sentiment de servir et de ne pas être dans l'erreur. Parce que des fois, on peut s'engager à faire des choses et être démotivé par le sentiment de commettre des erreurs, de dire ah, peut-être que je me trompe. Et quand on a des gens, des frères qui font ce genre de témoignages, c'est très réconfortant, mais c'est surtout, sachez-le, rassurant. Ça me rassure sur ce que je fais.
Sur l'utilité, l'utilité de ce que vous faites.
Et que je ne suis pas en train de perdre mon temps et en train de commettre des péchés ou en train de faire du tort.
Non, puis il faut expliquer aux gens qu'après tout, vous vous levez tous les samedis matins alors que vous pourriez faire autre chose. Alors
la
que vous
la grâce matinée, par exemple, me reposer.
Non, mais non. Bon, quand on non, a des, non, quand on a des enfants en bas âge, la grâce matinée, non, c'est un concept vrai. Qui n'existe pas.
Effectivement.
Mais c'est vrai que venir tous les samedis en direct, hein, donc c'est donner.
Mais je te cache pas que c'est un plaisir.
C'est un plaisir. C'est donner du temps et.
C'est voilà. Un effort qui apporte énormément de plaisir. Comme quelqu'un, quand il se lève le matin, il va faire un footing. Il fait un effort, certes, c'est fatigant, mais il y trouve un plaisir derrière.
Voilà,
il y a une euphorie.
Et le plaisir de retrouver, de parler aux gens, ce dialogue qu'on a commencé il y a
quelques années. Rien que le fait d'avoir donné des arguments à notre frère toulousain, je crois, celui qui avait des problèmes avec l'histoire de la viande de porc, etc. Eh bien, et puis tous ceux qui nous écoutent.
Non, mais la question, je vais la garder. Hein. Ben, est-ce que vous mangez du chien?
Ah. Bah, non, pourquoi? Ah, il va te dire, c'est dégoûtant.
Dis-moi pourquoi.
Non, il va dire, c'est dégoûtant.
Dis-moi pourquoi. Bah,
pourquoi voilà. Pas de
pourquoi
chien.
Pourquoi tu manges pas de chien, voilà.
Et du
elle,
porc,
elle
oui.
Est claire, elle est
pourquoi
claire.
Le porc, oui, et par le chien, non. Et pourtant, en Chine, là-bas, ils n'ont pas de problème avec le chien. Du moins, ils ont commencé
après, là où j'ai pas compris, c'est sur le guépard. Je connais assez peu de gens qui mangent du guépard.
Non, mais supposons, tout animal carnivore, c'est ça que j'ai cité.
Ah, voilà.
Les félins, les canins, les animaux canins. En tout cas, tous les animaux qui ont des crocs et des griffes. Ou des cerfs. Pourquoi le prophète a dit Mahalib, Al-Mahalib, Al-Mihlab, ça veut dire les cerfs, parce que les carnassiers volants n'ont pas de crocs. Les aigles, les vautours, tout ça, ou les faucons, tout ça n'ont pas de crocs, et pourtant ils sont haram.
Ils ont des cerfs.
Ils ont des cerfs. Mais comme le prophète ne connaissait pas l'expression carnivore, il a utilisé les mots de son époque. Voilà.
Imam Abdelhadi, vous serez là samedi prochain pour l'Islam au présent. Merci d'avoir été avec nous. Passez un bon week-end et je vous donne rendez-vous tout à l'heure avec Manuel Mariani pour DDT. Allez, donnez votre numéro rapidement.
Alors, le numéro pour s'enregistrer pour la Ramla en espérant que les voix se débloquent et pour poser vos questions, le 06 29 25 35 00. 06 29 25 35 00. Voilà, proposez-vous.
Retrouvez l'Islam au présent tous les vendredis de 10h à 11h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.